Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La vie est un voyage que l'on ne fait qu'une fois. Premier roman de Jean-Baptiste Le Hup est un roman contemporain paru en 2025 et centré sur une épreuve familiale extrême. L'histoire s'ouvre sur une certitude brutale. Titus, un garçon de moins de 10 ans, est atteint d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, une maladie annoncée comme incurable, avec un temps de vie estimé entre 6 et 12 mois. Le livre suit alors, au plus près, ce que ce diagnostic fait à l'enfant, mais aussi à ses parents et à l'équilibre du foyer. Le récit privilégie une approche pudique et lucide, cherchant l'émotion sans l'appuyer artificiellement et laissant aussi une place à l'humour et à la tendresse. La narration. La narration, réputée fluide et accessible, s'appuie sur une construction qui alterne les points de vue et les temporalités. Pour composer une chronique intime du conte à rebours et de la vie quotidienne qui continue malgré l'inéluctable, je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'annonce et le conte à rebours comme moteur narratif. Le roman s'organise autour d'un événement initial qui transforme tout l'annonce du diagnostic de Titus et la perspective d'un temps limité. Ce point de départ installe un conte à rebours discret, mais omniprésent, qui structure la tension du récit sans nécessairement recourir à des effets spectaculaires. L'enjeu n'est pas de multiplier les rebondissements médicaux, mais de montrer comment une famille vit quand l'avenir se rétrécit. Les gestes ordinaires prennent une densité nouvelle, parce qu'ils sont désormais traversés par la conscience du peu de temps. Cette situation permet au livre d'explorer la coexistence de deux réalités, l'urgence intérieure et la continuité extérieure de la vie quotidienne. La force du dispositif tient à la lucidité, il ne s'agit pas de nier l'inéluctable, mais de regarder comment chacun compose avec, en plaçant la temporalité au cœur de l'expérience. Le roman interroge la valeur de l'instant, la manière dont on réévalue les priorités, et la façon dont l'amour familial se manifeste quand il ne peut pas guérir, mais peut encore accompagner. Deuxièmement, une exploration de la parentalité face à l'impuissance, l'un des axes majeurs du livre réside dans l'attention portée aux parents de Titus. Le récit met en scène leurs doutes, leurs contradictions et leurs souffrances, sans les réduire à des figures exemplaires. La parentalité ici n'est pas idéalisée, elle est éprouvée par l'impuissance, par la difficulté de protéger et par la nécessité de rester debout malgré la peur. Le roman montre comment un couple peut être mis sous tension par l'épreuve, entre la gestion pratique, les émotions qui débordent, et les désaccords possibles sur la manière de traverser ce qui arrive. Cette approche donne une dimension réaliste, centrée sur les répercussions affectives et relationnelles d'une maladie grave. Elle ouvre aussi une réflexion plus large que signifie prendre soin quand on ne peut pas changer l'issue, comment parler, comment se taire, comment continuer à être parent quand l'enfant devient le centre d'un monde fragile. En s'attachant à ce vécu, le livre propose une compréhension fine des mécanismes de survie psychique et des loyautés familiales qui persistent malgré l'usure. Troisièmement, une écriture pudique qui refuse le pathos, sans éviter l'émotion, le sujet pourrait appeler une narration larmoyante. Mais les retours critiques soulignent au contraire une écriture qui cherche la justesse. Le roman vise l'émotion par la précision des situations et la sincérité des réactions, plutôt que par l'excès de dramatisation. Cette retenue donne du poids aux scènes, l'émotion ne provient pas d'un discours appuyé, mais de la proximité avec des personnages pris dans une réalité impossible. La fluidité du style et l'accessibilité de la lecture participent à cette efficacité, en permettant une immersion rapide dans l'intime. Une autre particularité fréquemment relevée est la place accordée à l'humour, non comme une négation de la tragédie, mais comme une respiration. L'humour devient un geste de vie, une façon de tenir, de se parler encore, de se relier. L'ensemble produit un ton qui mélange tristesse, lucidité et tendresse, et qui peut être perçu comme lumineux malgré la gravité. En refusant le pathos, le livre rend paradoxalement l'épreuve plus crédible, et donc plus bouleversante, il ne force pas les larmes, il laisse le lecteur les rencontrer. Quatrièmement, polyphonie et alternance des temporalités pour construire une réalité familiale, la construction narrative repose, selon plusieurs sources, sur une alternance de voix et de temporalité. Ce choix formel permet de présenter non une vérité unique, mais une expérience plurielle de la même situation. Chaque point de vue apporte sa propre logique émotionnelle, ses angles morts, ses mots pour dire ou ne pas dire. Dans un drame familial, cette polyphonie a un effet essentiel, elle restitue la complexité des liens, les incompréhensions, mais aussi les solidarités silencieuses. L'alternance temporelle, de son côté, aide à faire sentir l'épaisseur de l'histoire familiale, ce qui arrive au présent réactif des souvenirs, des blessures plus anciennes. Des tendresses qui n'avaient pas trouvé leur place. Sans nécessité de grands artifices, cette structure peut donner au lecteur le sentiment de reconstituer, pièce par pièce, l'équilibre d'un foyer et ses fragilités. Elle renforce aussi l'impression de réalisme. En montrant que la maladie ne suspend pas seulement le futur, elle reconfigure aussi le passé et la manière dont on interprète. Ce dispositif contribue enfin à éviter la monotonie d'un récit linéaire, la progression devient une composition, à la fois intime et narrative. En dernier lieu, une réflexion sur l'amour. le deuil anticipé et la vie qui continue, au-delà du cadre médical. Le roman s'inscrit dans une réflexion sur le deuil anticipé et sur la façon dont l'amour s'exprime quand il ne peut plus se projeter sereinement. L'expérience de la fin annoncée transforme les relations et l'oblige à dire, à choisir, parfois à se rapprocher, parfois à vaciller. Le livre explore ce paradoxe vivre un drame tout en continuant à vivre, parce qu'il faut bien manger, travailler, parler, exister. Cette cohabitation de l'insupportable et du quotidien est l'un des ressorts les plus puissants du récit. Le lecteur est amené à s'interroger sur ce qui compte vraiment, sur la valeur des moments simples, sur la présence comme acte d'amour. Les échos critiques comparant parfois l'émotion produite à celle d'autres récits marquants de maladies infantiles. Ce qui situe le roman dans une tradition littéraire où l'enfant devient, malgré lui, un révélateur, sans proposer de méthode ni de leçon explicite. Le livre laisse émerger une forme d'enseignement à la dignité de la lucidité, la force des liens et la possibilité d'une lumière fragile au cœur de la tristesse. C'est une méditation narrative sur la finitude, portée par une attention aux êtres. En conclusion, la vie est un voyage que l'on ne fait qu'une fois s'adresse d'abord aux lecteurs de romans contemporains sensibles aux récits intimes, aux histoires de famille et aux textes qui abordent la maladie grave sans détour. Il peut aussi toucher des personnes confrontées, de près ou de loin. Là, l'épreuve du deuil ou à l'accompagnement d'un proche, non parce qu'il offrirait des solutions, mais parce qu'il met des mots sur des réalités souvent indicibles. Le bénéfice principal est intellectuel et émotionnel, une compréhension fine de la manière dont une famille se recompose autour de l'inéluctable. Et une invitation à regarder ce qui demeure quand l'espoir de guérir n'est plus l'horizon. Le roman se distingue dans sa catégorie par son ton réputé juste et pudique, par une écriture fluide qui évite de manipuler l'émotion, et par l'usage de respiration comme l'humour qui empêche le récit de devenir uniquement accablant. Par sa construction alternant les voix et les temps, il donne de l'épaisseur au personnage et restitue la complexité des liens. Comparé à d'autres ouvrages sur la maladie infantile, il semble chercher moins l'effet de fable que la vérité humaine du quotidien. Ce qui le rend à la fois dur et étonnamment vivant. Si vous souhaitez soutenir Jean-Baptiste Lehup, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.